France Inter.
To be or not to be, not to be.
Un des moyens les plus simples de s'apercevoir du temps qui passe lorsque l'on a des enfants, c'est de leur laisser le contrôle de l'autoradio dans la voiture. Si vous avez un jour entretenu l'idée que vous étiez encore dans le coup, en général, en un seul voyage, vous allez comprendre que le train des tendances est passé depuis longtemps, sans arrêt à la gare des quinquagénaires. Quand ma fille lance sa playlist, c'est rendez-vous en terre inconnue en termes d'artistes. Valentina, Nour, Lou, j'en connais pas un seul. Alors qu'elle, elle connaît les chansons par cœur, ce que je trouve absolument bluffant, vu que quand il s'agit d'un cours d'histoire géo, elle a autant de mémoire que François Bayrou quand on lui parle de Bétarame. Ah si, Soprano, je connais. Ce qui me permet de lui répéter pour la centième fois qu'il a commencé avec le groupe marseillais Les Psychiatres de la Rime, à l'époque où il faisait du vrai rap. Ce qu'elle sanctionne toujours d'un « Ouais, je sais, papa, tu me l'as déjà dit ». Depuis que ma fille s'est mise à écouter ses chansons sur notre abonnement familial aux plateformes musicales, alors plus question de publier ma playlist de l'année sur les réseaux sociaux. Hein. Parce que c'est plus une playlist, c'est des preuves à charge dans un procès pédophile. L'algorithme, il est tout paumé. La dernière fois, il m'a suggéré Slimane et Vita. J'étais outré. Mais l'autre fois, il s'est passé quelque chose de réconfortant dans la voiture. On allait chercher une de ses copines, et alors qu'elle montait dans la voiture, elle a entendu Chic Chic Boom, un morceau de Stray Kids, le groupe de K-pop. Alors, elle s'est tournée vers ma fille en s'écriant « Oh, t'écoutes Stray Kids ?» Et ma fille de lui répondre « Non, non, ça c'est la musique qu'écoute mon père. » La gamine à l'arrière de la voiture, elle m'a regardé comme si j'étais le daron le plus cool du monde. Et j'avais envie de dire à ma fille, à moi, « Ah, tu vois la chance que t'as !»
France Inter, Blockbuster,
juste ici, ça va.
Frédéric Siglist.
Alors que l'incroyable essor de la K-pop, la pop coréenne sur la surface du globe, est indéniable, que des noms tels que BTS ou Blackpink ne sont plus inconnus du grand public français, un boys band coréen a fait une entrée tonitruante dans tous les hit parades du monde entier, Stray Kids. Un groupe issu d'une émission de télé-réalité qui en un temps record est devenu le nouveau visage du soft power sud-coréen. Pour revenir sur ce groupe qui donnerait envie de danser à des amis sans jambes, j'ai avec moi Laetitia Limois, bonjour.
Bonjour Frédéric.
Vous êtes journaliste vidéo au Monde et vous vous intéressez aussi aux sujets touchant à la culture populaire coréenne et particulièrement la K-pop.
C'est exact.
Avec nous également, et on est ravis, Savannah Truong, bonjour.
Bonjour.
Vous avez créé le Kick Café à Paris, qui est un concept store et un café dédié à la K-pop, et d'ailleurs un lieu de rassemblement pour les fans de K-pop. Et vous co-animez avec Laureline Neal, qui est aussi avec nous,
bonjour,
le podcast Kick Radio dédié à la K-pop.
Bonjour
Laureline. Laureline, vous travaillez dans la création de contenus vidéo et podcasts, et comme je viens de le dire, vous co-animez avec Savannah Truong le podcast Kick Radio.
na-na-na-na-na. 욕 부족인 거 totally. Bring out the fire. Ring 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 juggling. We gon' burn this down. We are the rockstar. Ring ding 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 ding. We gon' run this town. We gon' run this town.
You wanna come in?
가짜 스캔 going. Is it Gucci now shit? 하지 말아신 너 버리. 이해 나라 pass it. All the hurts. I am you.
Hey guys, we are
Stray Kids.
Bang Chat.
I'm Felix.
I'm Lino.
Han.
I am.
So we're looking forward to playing with the kittens.
Oh, Yanga.
Are they coming?
We are.
Oh my god.
Oh my goodness.
3-4개월 예상해 봅니다.
하나들이야. 어떻게?
Meow.
Meow meow.
Un extrait d'une interview de Stray Kids entouré d'adorables petits chatons trop trop mignons pour le média américain BuzzFeed. Alors je précise qu'une interview du même genre existe aussi avec des chiots, parce que la team chien, on vous oublie pas. Voilà, vous êtes big up. Donc Laetitia et moi, ma première question c'est comment est né Stray Kids? Parce que déjà, les auditeurs, il faut qu'ils le sachent, hein, moi j'ai 47 ans, donc je m'étais tranquillement fait à l'idée que BTS était le groupe de garçons phare de la Corée du Sud, et soudain, paf, Stray Kids arrivait à une vitesse incroyable. Et
oui, oui, alors Stray Kids a été créé lors d'une émission, en fait, de survival, comme on dit là-bas. Donc l'idée, c'était de mettre en concurrence plusieurs groupes du label JYP, qui est l'un des plus gros labels musicaux en Corée du Sud. Et donc, c'est à l'issue de ce survival qu'ils ont remporté, qu'ils ont été formés.
Donc, à la base, aucun des membres de Stray Kids ne se connaissait ou travaillait ensemble avant ce concours et cette émission.
Oui, alors ils étaient trainees déjà dans ce label JYP.
Qu'est-ce
alors,
que c'est un trainee?
Voilà, alors un trainee, c'est un stagiaire, c'est un peu, ça s'inscrit un peu dans la stratégie de formation de groupe, ou en tout cas d'idol en Corée du Sud. Il faut savoir qu'avant de devenir une star de K-pop, tous ces jeunes talents passent des auditions, et puis ensuite ils sont recrutés dans ces labels qui ensuite les entraînent donc à la composition, au chant, à la danse, à l'expression scénique, l'expression orale, même à l'anglais, à la façon de faire des interviews. Et donc pendant un certain nombre d'années, ils sont formés à tout ça pour devenir des idoles justement. Alors tout le monde ne débute pas. Il y a souvent ils ont des évaluations régulières déjà. Et puis pour former un groupe, soit la direction ou les responsables du label ont un projet en particulier. Ils veulent créer par exemple un groupe de 5 membres, soit filles, soit garçons, ça arrive aussi qu'il y ait des groupes mixtes, ou alors on met en concurrence, comme ça a été le cas pour Stray Kids, différents trainees, donc stagiaires des labels, pour créer un groupe. Donc on les met en compétition sur tout ce qui est la danse, le chant, etc. Et puis il y a aussi les fans qui peuvent suivre ces émissions-là et voter aussi pour leurs membres préférés.
Laureline, Nel et non pas Neil, mais elle coule
pas.
Hein.
Pas de souci.
C'est parce que j'ai eu un Julien Neil et donc je suis resté là-dessus. En France, on a la Starac,
ouais.
on a The Voice. Oui. Il faut bien comprendre que l'entraînement de ces trainees en Corée du Sud n'a rien à voir.
Rien du tout.
La Starac, c'est un club de vacances par rapport
à... Oui, totalement. C'est vrai qu'en plus, la Star Academy, voilà, on a des jeunes qui arrivent, ils sont déjà un peu adultes. Nous, on est presque sur des enfants. On est sur des fins enfance, début adolescence. Souvent, on va passer des auditions quand on est en 6e, 5e, et on peut être pris directement. Et là, on va passer, du coup, plusieurs années, comme disait Laetitia. Avant, j'ai envie de dire, on passait minimum, 3-5 ans. Là, en un an, même quelques mois, on peut déjà débuter. On va leur apprendre, comme on disait, énormément de... de compétences. Et puis, c'est des groupes, alors que The Voice et Star Academy, ils sont tout seuls. C'est vraiment, c'est un gagnant. Là, c'est plusieurs gagnants, suivant l'envie qu'on a pour le groupe. Et des fois, on peut avoir des surprises. On a eu le cas pour Blackpink, où de base, on ne devait pas débuter quatre jeunes femmes, mais c'était plus. Et en fait, on s'est dit, elles ont une telle alchimie, elles sont tellement douées ensemble, on va les faire débuter. Stray Kids ne devait pas débuter à 9, de base. Il est débuté peut-être à 7.
Et je sais que en préparant cette émission et d'autres sur la Corée du Sud, je sais que le système scolaire est très exigeant là-bas, qu'il y a une compétitivité très importante pour les étudiants. Mais donc, quand on commence aussi jeune à être trainees et à apprendre à chanter, à danser, est-ce qu'il y a aussi un cursus scolaire qui est intégré au sein de cette formation?
Oui, ils ont aussi leurs cours. Le plus souvent, c'est soit les cours, sauf si je dis des bêtises, directement à l'agence, ou alors ils vont directement dans leur école. On a vu le cas avec d'anciens groupes. Et souvent, ils continuent aussi leur formation dans des écoles d'art. Et il y a plusieurs apprentis idoles. Et donc, voilà, c'est pour être en plus. Donc, on a les cours, on va dire, classiques. Et on va mêler ça à l'art.
Et pour se donner une idée, ça fait des journées de combien d'heures?
Beaucoup trop. Déjà, on prend un étudiant classique, c'est énorme. Il va se réveiller à 5 heures pour se coucher à 2 heures du matin parce qu'il y a les cours du soir aussi. Et là, il y en a même qui ne dorment pas parce qu'ils veulent être performants pour les évaluations mensuelles. Et donc, il faut être au top de sa forme. Donc, de grosses, très grosses journées.
Savannah Truong, justement, on le voit, cette formation, elle est hyper difficile et elle aboutit des fois à Blackpink, à Stray Kids. Mais comment ça se passe pour un trainee qui ne va pas au bout, justement, qui à force de ne pas dormir, part en torche et...
En fait, souvent, soit ils ne sont pas sélectionnés dans leur groupe et ensuite ils vont aller dans une autre agence où peut-être qu'ils correspondront un peu plus au concept que l'agence avait en idée de débuter. Et sinon, ils reprennent une vie normale. En fait, il faut vraiment comparer le training system en Corée au sport-études en France par rapport au foot, par exemple, ou au basket que nous, on a, qui est quand même à très haut niveau, où des jeunes de 10 ans vont en sport-études en France. Et je pense que c'est assez similaire. Donc, ils continuent quand même leurs études. Il ne faut pas oublier que devenir idol, c'est quand même un parcours d'excellence. Enfin, tout le monde ne devient pas Blackpink, tout le monde ne devient pas BTS. Il y a une certaine pression sociale et aussi une certaine exigence de la part des compagnies. Et souvent, ils demandent aussi d'avoir des rapports de classe qui vont être excellents. On le voit, la plupart des idols étaient soit délégués de classe, ils étaient premiers de la classe. Beaucoup étaient des top students.
Ah oui, donc il y a vraiment il faut être bon partout.
Exactement.
Et il y a une particularité dans la création de Stray Kids, c'est que Bang Chan, le leader, le trainees, a eu le loisir de choisir potentiellement les gens qui feraient partie de ce groupe. Là où d'habitude, c'est vraiment juste une construction de la compagnie qui est derrière.
Exactement. En fait, Bang Chan a eu un temps de training très long, donc 7 ans. C'est vraiment long en termes de K-pop aujourd'hui. Et c'est ce qui lui a permis justement de pouvoir choisir les trainees pour pouvoir former Stray Kids. C'est ce qui lui a aussi permis de savoir quelle couleur musicale il voulait donner au groupe. JYP lui a laissé la chance d'avoir des cours de production, de composition musicale, d'écriture de paroles aussi. Et en fait, avec deux autres membres de Stray Kids, donc Changbin et Han, ils ont créé Trilacha, qui leur a permis en fait de produire toutes les musiques qu'on a actuellement de Stray Kids.
Et quand on arrive sur le marché de la musique comme ça, on arrive logiquement un petit peu baigné d'influence et de goût. Là, comment ça se passe chez les trainees? Est-ce que justement ces goûts, ils se font ou ils les découvrent au moment de la formation, ou ça peut déjà être parce qu'ils avaient un papa ou une maman musicienne et qui les avait déjà un petit peu ouverts à la musique du monde entier? Parce que Stray Kids a un son qui est très occidental. Il y a des rythmes cubains, d'autres c'est du rap pur et dur.
Je pense que c'est pas très étonnant puisque le groupe est vraiment multiculturel. On a quand même deux Australiens dans le groupe. Souvent, les agences ont des trainees qui viennent de partout dans le monde. Bang Chan, quand il s'est entraîné avec Bam Bam de GOT7 qui est aussi thaïlandais. Il y avait Jackson Wang qui est de Hong Kong. On a aussi Mark qui vient des États-Unis. Je pense qu'ils avaient quand même une influence internationale qui était très forte, et Stray Kids a été pensé comme un groupe global, donc un groupe mondial qui allait plaire aux audiences vraiment internationales.
Et il y a eu, ça je l'ai découvert en préparant cette émission, il y a même des membres qui ont été repêchés. Félix notamment, parce que je parle de Félix parce que c'est celui qui m'a le plus marqué visuellement, mm-hmm. parce qu'on a l'impression d'avoir un personnage de Final Fantasy qui s'est mis à chanter et à danser. Et lui en fait, il a failli ne pas faire partie de l'aventure.
Oui, après, je pense que c'était un choix aussi de l'émission, l'éliminer au départ pour après avoir des votes. JYP avait déjà fait ça avec le groupe Twice, où il avait éliminé une des membres les plus importantes aujourd'hui qui s'appelle Momo. Et en fait, dans les survival, il y a beaucoup de rebondissements.
Ah, c'est pour créer une dramaturgie
exactement.
Dans l'émission.
S'il n'y a pas d'éliminé, il n'y a pas de drame, et donc il n'y a pas de petits moments qu'on peut filmer qui vont être larmoyants et agréables pour le spectateur.
D'accord. Alors évidemment, je ne peux pas faire une émission sur Stray Kids en vous posant la question, mais qui déchire les communautés de fans. Quel est votre Stray Kids préféré?
Moi, c'est Ayen. Il ressemble un peu à un petit renard, et donc je le trouve très mignon. Voilà, j'ai pas d'autre. Franchement,
c'est un très bon argument.
Voilà,
musicalement, il ressemble à un petit renard. Laetitia.
Alors moi, je penche pour Han plutôt Han. Mais parce que j'aime beaucoup la façon de rapper, que je trouve très percutante, et je trouve qu'il y a vraiment une couleur intéressante.
Très bien.
Et moi, ce sera avec Changbin, qui fait donc partie des Sriracha avec Han et Bangchan. Et donc, il est vraiment à la production et à l'écriture. Et pareil, il a un rap très dynamique et j'aime beaucoup sa manière d'écrire et de composer. Et c'est un membre assez important quand même dans le groupe. Et moi, je suis plutôt team Changbin.
Bon bah voilà, il y en a pour tout le monde. Hein. On est ensemble pour parler de Stray Kids et quoi de mieux que les écouter. Et on va entendre God's Menu.
Frédéric
Eric Sigrist.
Sarah Connor.
C'est à côté.
Blockbuster. Sur France Inter.
Alors, je le disais hors antenne, ma passion pour Shrek Kids vient aussi d'une passion cumulée avec le sport. Parce que si jamais vous voulez faire des séances et avoir un bon rythme, eh ben vous écoutez ce genre, ce type de morceau et vous allez voir, la séance sera bien plus facile. C'est un complément alimentaire voilà, que je conseille à tout le monde. Mais on le disait aussi, Shrek Kids et la K-pop de manière générale, ça s'écoute, mais surtout ça se regarde. Laureline.
Oui. Alors en fait, quand on parle de K-pop, on parle aussi en génération. Donc là, actuellement, on est à la 5e génération. Stray Kids fait partie de la 4e, donc qui a débuté en 2018.
Ah, c'est des vieux, presque.
Et c'est presque des vieux aujourd'hui, exactement. Et c'est vrai qu'à leur génération, on a eu un vrai basculement sur du visuel. Et donc, on a des clips et des chorégraphies vraiment spectaculaires. On va plutôt se concentrer sur les chorégraphies plutôt que sur la voix chantée, alors qu'avant, sur tout ce qui était 2e et 3e génération, on avait plus du chant et pas trop de la danse. Si on regarde, on voit une vraie différence. Et donc, on a Stray Kids, mais aussi d'autres groupes comme 80s aussi, où voilà, c'est du visuel. On a de grands décors, on a de très beaux, qu'on appelle outfits, donc pour les vêtements. On a des musiques qui sont vraiment spectaculaires, comme je dis vulgairement, boum boum dans les oreilles, et des chorégraphies qui sont assez difficile à reproduire quand même et qui font le spectacle. Et quand on les voit sur scène, que ça soit durant les lives à la télévision ou durant les concerts, c'est un vrai spectacle. C'est pas juste un concert, c'est un spectacle.
Oui, parce que les chorégraphies sont à un niveau, enfin, si on aime ces ligaments et ces articulations, ouais, on n'essaie pas de les reproduire comme ça.
Ah ouais, non, vraiment, échauffez-vous bien avant parce que c'est très compliqué. Mais ça fait partie aussi du spectacle et du fait qu'on aime la K-pop. On aime la regarder et ensuite l'écouter.
Laetitia, vous disiez hors antenne que c'était justement visuellement que vous aviez été séduit par la K-pop.
Exactement. Alors moi, je découvre la K-pop il n'y a pas si longtemps en réalité. On est en 2018-2019.
Oh là 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 là, vous dites voilà. Ça parce que je sais déjà. Il faut savoir que quand on aborde ce genre de sujet, quand on est un vieux monsieur comme moi, on sait qu'on va recevoir des tonnes de messages de gens qui disent « Oui, je n'ai rien appris, vous n'avez pas été exact, comment vous n'aimez la K-pop que depuis 2 jours ?» Donc vraiment... Là, merci pour les 152 messages que je vais recevoir de gens pas contents.
Alors, vraiment, désolé, mais alors ça n'empêche pas d'être quand même vraiment très pointu. Et donc, oui, moi, je découvre la K-pop, donc, évidemment, avec le phénomène qui est BTS. Lors de leur passage au Grammy, cette année-là. Je me dis que c'est quelque chose qui pourrait m'intéresser, parce que moi, je suis très, très passionnée par l'Asie de l'Est. Je tombe sur le clip de Blood, Sweat and Tears que je trouve magnifique. En fait, c'est vraiment un très très beau clip avec une histoire, c'est à la fois mélancolique et romantique, avec une chorégraphie vraiment trop belle en fait. Et puis tous les codes de la K-pop, hein, les 7 garçons, ils sont extrêmement beaux, ils dansent de façon hyper synchro, et puis la musique elle est très un peu expérimental, Et donc voilà, je découvre la K-pop un peu comme ça. Et donc après, j'aime bien dire que c'est un gouffre sans fin, quoi. On est pris dans ce vortex. On va de clip en clip et chaque clip est différent et encore plus beau et encore plus, plus inédit. Voilà. Donc c'est un peu comme ça que ça se fait.
Savannah. Est-ce que ça a été un succès immédiat? On l'imagine, parce que pour le coup, le public sud-coréen a participé dès le début à la création et à l'expansion de ce groupe. Mais est-ce que ça a tout de suite fonctionné?
Pour Stray Kids, étonnamment, oui. En fait, ils ont, dès la première année, eu ce qu'on appelle le titre de Rookie of the Year. Donc, c'est le meilleur nouvel artiste masculin de l'année. Ils l'ont reçu, je crois, dans 4 awards différents et les plus grands. Le plus grand award qu'on peut recevoir, c'est les MAMA, donc Mnet Asian Music Awards. C'est vraiment une des plus grosses distinctions. Et la deuxième plus grosse distinction, c'est le Golden Disc Award. Et ils ont reçu ce prix dans ces deux awards-là. Et il ne leur a fallu qu'un an pour atteindre ce qu'on appelle le First Win. En fait, en Corée, il y a le système des music shows. Donc, c'est des shows qu'il y a quasiment toute la semaine, du mercredi au dimanche. C'est 2 heures de show musical où les gens peuvent... des groupes de K-pop se représentent. Et les fans votent. Il y a un vote du public.
Donc il y a quand même toujours et encore une compétition,
ah
c'est-à-dire
oui,
même
oui.
Quand on est sorti
bien sûr.
De la...
Bien sûr. Et Donc les groupes de K-pop se représentent et les fans votent. Il y a des votes digitaux, des votes du public sur place. Et Stray Kids a gagné ce first win en un an, ce qui est vraiment pas hyper long. Bien sûr qu'aujourd'hui, il y a plein de groupes qui ont cassé ce record et qui gagnent leur premier win en 5 jours, en une semaine. Mais Stray Kids a fait ça en un an, ce qui prouve quand même que leur popularité a été assez rapide.
Et qu'est-ce qui définit le style musical de Stray Kids? Parce que c'est vrai que on pourrait dire il y a une sorte d'uniformisation entre ce qu'avait pu faire BTS et Stray Kids, mais non, en fait c'est
pas
deux styles
tout.
Très très différents et musicalement les influences ont l'air d'être différentes aussi.
Oui, pour moi Stray Kids fait énormément du hip-hop, il y a de l'EDM. Tout à l'heure, on parlait de rythmique cubaine, reggaeton, on l'entend dans Chic Chic Boom. Je pense qu'il s'inspire de plein de rythmiques différentes et c'est ça qui fait aussi la K-pop en général, c'est que la K-pop, on peut pas vraiment définir la K-pop comme juste de la pop, du hip-hop, du R&B, du rock, parce qu'en fait, un artiste va pouvoir avoir une multitude de genres dans un album. On le voit dans la plupart des albums de Stray Kids, chaque chanson est différente, chaque chanson va avoir un genre différent, et je pense que c'est ça qui fait la force de la K-pop, c'est qu'il y en a pour tout le monde.
Extrêmement bien produit hein, en termes de changement de rythme, d'univers dans la même chanson. C'est un festival.
Ah mais moi c'est ce que j'adore dans la K-pop. J'ai découvert la K-pop en 2008 comme Laureline, et vraiment ce qui m'a étonnée dès la découverte de ce genre musical, j'avais 14 ans, c'était toute cette multitude de changements de rythme, de changements de mélodie, ces productions hyper léchées, et ce qu'on retrouve pas forcément aujourd'hui dans la variété européenne. Et c'est intéressant parce que la K-pop, c'est le seul genre musical actuel où sur une chanson, on peut avoir 5 producteurs. En fait, ils fonctionnent avec un système qu'on appelle les Song Camp, où l'agence va dire à plein de producteurs de partout dans le monde, on veut produire un album pour cet artiste-là, ça va être le thème ça va être Vampire, venez pendant 2 semaines écrire 20 chansons pour nous autour de cet album-là. C'est pas le cas pour Stray Kids. Stray Kids, c'est hyper intéressant parce qu'il fonctionne pas du tout comme ça, c'est principalement Trila Cha qui écrit les chansons, et je pense que c'est ça qui fait la force de Stray Kids, c'est parce qu'ils connaissent leurs couleurs, ils connaissent leurs forces, et ils arrivent à mettre ça en avant dans chacun de leurs albums.
Laetitia, en écoutant Stray Kids, je me rends compte aussi que c'est, avec ces groupes tels que BTS, c'est aussi les premiers artistes musicaux qui incorporent quelque chose que la variété occidentale a du mal à, pour moi, synthétiser. C'est des auditeurs qui suivent plusieurs plateformes, plusieurs médiums, qui jouent à la fois aux jeux vidéo, qui jouent... parce qu'en fait, il y a des rythmiques à certains moments. Et quand je parle de jeux vidéo, je ne parle pas de Super Mario, je parle des dernières grandes productions qui regardent des animés. Il y a quelque chose de peureux entre ces univers... je parlais justement de la ressemblance physique de certains chanteurs avec des personnages de Final Fantasy. Il y a quelque chose de ce type-là, presque cross-média, dans Stray Kids.
Oui, et plus généralement dans la K-pop, en fait, tout est fait pour que les fans puissent consommer un maximum. Enfin, c'est un peu du fanservice aussi. Donc, on peut donc consommer déjà la musique des groupes, et puis ensuite, ensuite on peut consommer un jeu vidéo par rapport au groupe. Et puis effectivement c'est cross-média dans un autre sens, c'est que ces groupes là par exemple, on parlait d'animation, ils vont pouvoir produire une musique pour un film, enfin une animation quoi, un animé, voilà, je cherchais mon mot, pour un animé, c'est le cas par exemple de Félix de Stray Kids,
pour Solo Leveling,
voilà exactement, qui a travaillé sur la soundtrack de l'animé Solo Leveling. Donc voilà, en fait tous ces mondes là se réunissent un peu et se mélangent, et puis j'imagine que les fans de K-pop sont aussi un peu fans de la culture en fait de l'Asie de l'Est, donc c'est certainement des personnes qui consomment des animés, de la J-pop aussi pourquoi pas, et les jeux vidéo qui vont avec quoi.
Mais c'est intéressant que vous parliez de la J-pop, parce que justement J-pop qui existe depuis très très longtemps aussi, mais qui n'a pas eu cette porosité avec la culture mondialisée, comment on explique ça?
Alors, bon, c'est parce qu'ils n'ont pas eu la même stratégie d'exportation que la Corée. Enfin, on va peut-être en parler plus longuement plus tard. Mais la Corée du Sud et son gouvernement boostent vraiment l'exportation de la culture, de son soft power pour, d'abord renchérir le pays. Enfin, faudrait remonter fin des années 90, quand il y a eu une grosse crise économique en fait en Asie. La Corée s'est retrouvée déstabilisée en fait. Comme la plupart des pays de l'Est. Et puis, en fait, le gouvernement de l'époque a eu l'idée de se servir de sa culture. Ça passe aussi par la technologie, par les films, les séries, la skincare plus récemment. Pour
la routine beauté.
Voilà, exactement. Oui. pour s'exporter et rapporter de l'argent au pays. Après avoir été témoin des débuts de la K-pop, donc début 90, avec Sotaeji and Boys et H.O.T. qui sont les premiers groupes considérés de K-pop, qui avaient eu beaucoup beaucoup de succès.
Et puis quand même le Gangnam Style qui a quand même rayonné, parce que
ça vient après
une blague. Ça apparaissait sous la forme d'une blague, mais ça restait quand même.
Exactement. Donc justement après avoir commencé à exporter la Hallyu, la fameuse vague coréenne, en début des années 2010, il y a ce fameux Gangnam Style de Psy qui était juste une musique de plus de Psy qui était déjà connue en Corée du Sud, mais qui devient la première vidéo YouTube à atteindre le milliard de vues. Et en fait, côté Occident, personne comprend ce qui se passe. Enfin, lui-même, il en parle dans une interview. Il dit mais moi, j'ai pas compris pourquoi ça a eu un tel engouement à l'international et plus largement, enfin, en Occident. Et ça, en fait, ça a été une première porte qui s'est un peu grande ouverte sur la K-pop. Et c'est à ce moment-là que l'Occident a commencé à regarder de ce côté-là du globe, quoi.
Mais c'est vrai qu'on est souvent, on est très souvent en retard. Laureline, j'y pensais, parce que notamment pour Squid Game, quand la série a fait un carton pas possible sur les plateformes, je me souviens des interviews de l'acteur principal, ouais. Lee, à qui on lui dit « Ah, mais vous devez être content, vous êtes une star maintenant
ouais. !»
Et lui, de regarder, mais il dit « En fait, j'étais une star
ouais,
avant. »
En plus, il était gentil à dire « Ah oui, d'accord. » Mais c'est vrai que c'était déjà une star, mais comme nous, en Occident, on ne les connaît pas, donc ils ne sont pas connus parce que nous, on ne les connaît pas. Et ça a été le cas, par exemple, pour Psy. Il faisait déjà des stades, il faisait déjà énormément de choses. Et il y en a plein qui, encore aujourd'hui, disent « Ah, lui, il a fait Gangnam Style et Gentleman, on ne l'a plus jamais revu. Il n'existe plus. » Bah, bien sûr que si, c'est juste que vous ne le voyez pas, parce que vous avez juste regardé ça. Mais en soi, en effet, la K-pop s'est exportée tout d'abord en Asie. Et d'un coup, avec l'arrivée des réseaux sociaux, de YouTube, et du fait que la K-pop a fait ce que n'a pas fait la J-pop, donc a posté sur YouTube les clips dès leur sortie, ça a eu une explosion internationale assez forte, et donc déjà avec en effet Gangnam Style de Psy, et juste après avec BTS, où là, on ne pouvait plus les arrêter, quoi.
Et ce qui est phénoménal aussi, quand on regarde les commentaires sous les premières parutions de ces clips, c'est qu'il y a énormément de commentaires, mais qui remontent à 2016, 2015, etc. On voit, en préparant cette émission, je voyais des échanges. Et donc, ça veut dire qu'il y a des communautés en Occident qui étaient déjà hyper actives et qui soutenaient ces groupes-là. Comment l'information se propageait? C'était vraiment juste par forum Discord ou l'équivalent de l'époque?
Alors l'équivalent de l'époque c'était Skyblog, RIP. Moi donc comme disait Savannah, on a découvert toutes les deux à peu près pareil 2008-2009. Et à l'époque bah, y a pas TikTok, y a pas Instagram, à peine Facebook, mais bon on va pas trop dessus. Et moi j'ai découvert
et
grâce...
Et il faut plus y aller.
Il faut plus y aller. On a découvert en fait, enfin moi en tout cas je sais plus pour toi, mais sur Skyblog où il y avait plein de groupes de base japonais. Et là je découvre au milieu un groupe coréen et on est vraiment ouais, en 2008-2009 et... Bah, personne connaît en France. Quand on regarde des émissions, les sous-titres sont uniquement en anglais. Très peu de communautés françaises, toutes petites. Des magazines sur la K-pop commencent à sortir, mais difficilement. Il faut commander sur Internet. Donc c'est vrai que nous, on a eu un petit peu ce retard-là parce qu'on ne connaît pas. Et l'Asie en France, bah, on ne connaît pas. Et on juge très rapidement. Pour nous, c'était les mangas, c'était le Japon. Et puis voilà, c'est tout, ça s'arrête là. La musique, oh, ils n'ont pas trop de moyens. Ah, mais c'est bizarre. Ah, mais on ne comprend pas quand ils chantent. Je ne comprends pas les paroles. C'est bizarre, la langue, elle n'est pas belle. Et en fait, c'est juste qu'on se met des barrières sans vraiment aller regarder plus loin. Et donc, il y a toute une communauté un peu de la première heure. Donc, si on parle en génération de K-pop sur la deuxième génération, fin des années 2000, qui en fait est allée au-delà de ces barrières et a vraiment consommé... de manière presque excessive, j'ai envie de dire, ces contenus-là. Ça a été tout d'abord la musique, après les séries, donc les dramas, les émissions de divertissement, les survival. Et en fait, on nous a mis du contenu comme ça sous la main, à ne plus trop savoir par où commencer. Et juste, on a eu une boulimie de consommation de contenu sur la K-pop. Et c'est vrai qu'avec le confinement et l'expansion des réseaux sociaux et le fait que les groupes utilisent énormément ces canaux de diffusion, ça a explosé encore plus.
On est ensemble pour parler de Stray Kids avec Laetitia Limois, Savannah Truong et Laureline Nell. Et on va écouter Complet, un titre qui a servi de bande originale pour la saison 2 de la série animée Arcane, à laquelle on consacre également un blockbuster.
Turn them all to stone. And shout out to the war, they got the confidence me on. Now leave you begging for more. Press okay, peanut, you know. Come on, you're on a swing gap. No, it's a game and I'm sorry. Pray that I'm head up and on. Show my bone and one gun. Llegamos con el combo ready pa' hacerles una vejía. Cuidado que tengo mecha corta y puede que te explote la encía. Prendo fuego y te quemo toda la mercancía. Mejor pedir pelón que pedir permiso, mal improviso. Y a toda esta gente le doy contra el piso si quieren. Me disfuerzo, les tengo un aviso. Más mala suerte con la nena que disparo y preciso.
Frédéric Sigrist sur France Inter.
On vient d'entendre Comeplay, la bande originale de la série animée Arcane, dans lequel il y avait également Tom Morello qui joue de la guitare, qui est le guitariste de Rage Against the Machine. Là, c'est la BO d'Arcane, une série vue par des millions de personnes sur la planète. Ils ont également composé un morceau pour Deadpool Wolverine, ouais. Voilà, qu'on entendra, je crois, un peu plus tard. Et ma question, c'est comment Stray Kids a aussi rapidement envahi le monde occidental, parce que moi j'ai eu l'impression qu'il y a eu, l'annonce de la séparation de BTS et très rapidement Stray Kids est arrivé, mais peut-être que c'est juste vu d'Occident.
Attention, BTS ne se sont pas séparés.
Oui.
Attention aux commentaires.
Oui. Il y a eu le service militaire.
Ils sont en service militaire.
Voilà.
Sachant que la plupart des membres vont revenir à la fin de l'année, il y aura certainement un comeback.
Donc ravalez les cachets, s'il vous plaît. etc. ne m'attendez pas à la sortie de l'année. Je ne sais rien. Ils sont en pause.
Et en fait, Stray Kids sont bien sûr arrivés à un bon moment, puisqu'il y a eu un petit battement en fait à partir de 2020-2021 où BTS a commencé à aller en pause par rapport au service militaire. Stray Kids a eu aussi la force, comme un autre groupe qui s'appelle 80s, d'aller directement à l'international. On peut le voir dans les musiques, quand on écoute les chansons de Stray Kids, les chansons sont faites pour le public international. Beaucoup de chansons ont des paroles en anglais, les sonorités, c'est pas forcément des sonorités de K-pop pure, comme ce qu'on pourrait appeler durant la seconde génération. Et aussi, on a eu une stratégie marketing très internationale. Donc on parlait de BuzzFeed tout à l'heure, mais ils ont pu aussi faire beaucoup d'interviews avec des médias américains, anglais, et ils ont tout de suite, très rapidement, fait des tournées à l'étranger. Ils ont fait une tournée en France, par exemple, dès leur début, ce qui leur a permis, en fait, d'être proche du public, c'est, bien sûr, tout ce qui va être Weverse, Line, Bubble, toutes les plateformes de communication avec les fans qui leur permettent d'être directement très proches des fans.
Ça, c'est des plateformes de communication directe, parce que je ne les connais pas.
Hein. C'est des sortes de WhatsApp, dont vous payez l'abonnement. Et tous les mois, vous payez l'abonnement et vous pouvez parler directement avec votre star préférée. Donc, lui reçoit quasiment les messages de tout le monde, mais peut décider de répondre qu'à une personne.
Ça existe pour toutes les stars
Toutes les stars de K-pop, ouais.
D'accord, ok.
Exactement.
Donc, un abonnement privilégié pour...
Exactement. D'accord. Et il y a aussi des abonnements aussi pour les lives. Donc les stars de K-pop vont très souvent faire des lives, quasiment un par semaine, voire plus, où en fait ils vont échanger avec leurs fans, où ils vont leur raconter la journée. Après, on a aussi bien sûr tout ce qui va être vlog, contenu sur YouTube, ouais. Émissions. Je pense que Stray Kids, comme ils ont débuté grâce au Survival, il y a toujours tout de suite eu de l'intérêt pour le groupe. Et aussi, Stray Kids vient d'un des Big Four, donc les Big Four c'est JYP, SM, HYBE et YG, et JYP a les moyens de les propulser quand même à l'international.
Alors je me fais l'avocat du diable, mais ils font des concerts pas croyables, ils font des clips chiadés au dernier degré, ils sont un peu partout sur le club, mais en plus de ça ils prennent du temps pour donner du contenu aux fans, mais quand est-ce qu'ils dorment ?
Alors ça, bonne question. Après, c'est ça pour beaucoup d'idoles. On ne se rend pas compte à quel point c'est un travail difficile, mais de l'autre côté, c'est ce qu'on attendrait d'un athlète qui va aux Jeux Olympiques ou qui va faire la Coupe du Monde. On attend d'un athlète qui soit performant 365 jours dans l'année et qui donne le meilleur de lui-même. On le voit par exemple avec les athlètes de F1. On attend d'eux qu'ils soient performants 365 jours dans l'année. Et c'est pareil pour la K-pop.
Oui, sauf que le champion de F1, on va pas s'attendre qu'à 23h, il nous envoie un petit message pour dire « Écoute, j'ai bien eu ton message, Jean-Michel 64, tu peux compter sur moi. » Enfin, ça, c'est engageant quand même.
La K-pop est quand même basée sur une relation parasociale de « je peux consommer du contenu de mon idol préféré tout le temps ». C'est-à-dire que je connais toute sa vie, je sais c'est quoi sa couleur préférée, son plat préféré, par exemple pour Félix et les brownies. je sais quelles sont ses chansons préférées, le parfum qu'il porte, par exemple. Et ce qui va me permettre d'apprécier, en fin de compte, encore plus la musique, puisque comme je connais cette personne, je peux encore plus apprécier son œuvre.
Je ne sais plus aujourd'hui ce que notre équipe est devenue et je n'ai absolument aucune idée de ce que nous devrions faire. L'industrie de la K-pop et l'ensemble du star system ne nous laisse pas le temps de mûrir. On doit en permanence filmer des choses, être tout le temps disponible, se faire coiffer, maquiller, faire ceci, cela. J'ai vraiment pas le temps de grandir. Je me sens coupable de dire que ma vie actuelle est douloureuse. J'ai peur que vous me détestiez pour avoir dit ça. Je me sens coupable quand je dis qu'aujourd'hui, je veux me reposer.
Dans cet extrait, on a entendu RM, le leader du groupe de K-pop BTS, sans doute le groupe le plus connu à l'international, qui se confie sur l'une des raisons pour laquelle le groupe a choisi de se mettre en pause. Pas une séparation. Mais donc effectivement, Laetitia, on l'entend, RM, bah, au bout d'un moment, il a même honte de le dire, mais je suis un peu fatigué.
Oui, il faut savoir qu'en fait, la Corée du Sud, dans sa globalité, c'est une société qui est quand même vachement exigeante, en fait. Que ce soit pour les idoles, mais aussi pour les acteurs, et pour les gens même dans la société. Et donc, quand RM partage un petit peu sa détresse, puisque il travaille énormément, en fait, les idoles, c'est tout le temps. Tout le temps, travailler. On parlait juste à l'instant de la loyauté aussi qu'il faut construire avec les fans, donc il faut pouvoir leur répondre, il faut être disponible en fait, on ne s'appartient presque plus en fait, on appartient à nos fans et voilà, on fait tout pour construire cette relation avec eux, en plus de la musique qu'il faut aussi composer et travailler. Et donc il a un petit peu honte parce que culturellement en fait en Corée du Sud c'est la performance tout le temps qui prime, faut rendre fier et il y a une sorte de résilience un peu qui régit en fait la société et les gens, enfin les Coréens au global. Donc c'est effectivement un petit peu honteux d'avouer qu'on a une faiblesse ou qu'on est un petit peu en détresse à certains moments, quoi.
Laureline, c'est quoi le plan de carrière d'une idole quand on a déjà donné autant de soi aussi tôt dans sa vie?
Alors,
ensuite, qu'est-ce qu'on fait
quand le groupe se sépare officiellement?
Quand il fait, Oui. Je ne sais pas s'ils se séparent quand ils font des pauses un peu plus longues.
Alors, soit si le groupe est en pause, soit les idoles du groupe peuvent faire leur carrière solo. C'est pas parce qu'on fait une carrière solo que le groupe est séparé. Sinon, on peut aussi devenir animateur télé, donc on appelle MC. On peut aussi avoir de l'acting. Ils sont formés à tout ça durant leur training, donc leur entraînement au sein des labels. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre aussi? Monter leur propre agence également. On l'a déjà vu, il y a eu des artistes qui ont monté leur propre agence, qui vont produire leur propre groupe aussi. Voilà, donc on reste toujours un peu dans l'art et certains repartent un petit peu dans l'ombre, j'ai envie de dire. On en parlait dans un épisode avec Savannah, ils peuvent aussi ouvrir leur café, ils peuvent prendre un petit peu une vie un peu plus normale et un peu plus posée. Mais c'est vrai que habituellement, on continue de les voir encore à la télévision ou en tout cas à la radio. Voilà, ils continuent toujours de se renouveler avec toutes les compétences qu'ils ont apprises.
Et les carrières solo, c'est ce qu'on est en train de voir, notamment avec Blackpink, où pendant leur pause, elles sortent chacun.
Ouais.
Mais ce qui m'a surpris, c'est de voir à quel point les fans du groupe Blackpink ne sont pas forcément des fans des chanteuses individuelles. C'est-à-dire que j'ai vu des critiques, une fois c'est Jennie, une fois c'est Lisa, mais d'une sévérité qui est plus grande que des gens qui n'aiment pas du tout la K-pop.
Alors parce qu'en effet, ils ont des standards. Les fans de K-pop vont avoir leurs standards. Et là, avec Blackpink, on a donc le groupe qui est sous un label coréen. Mais toutes les quatre ne sont pas forcément ensuite en solo dans un label coréen, mais américain, ou en tout cas occidental. Souvent américain. Et donc, on a des musiques avec des sonorités beaucoup plus américaines qu'on n'a pas forcément dans la K-pop. Donc, c'est pas de la K-pop pure et dure. On va avoir vraiment l'artiste solo de Blackpink, c'est Jisoo, qui va avoir plus ces sonorités-là, K-pop. Mais Lisa va partir plus sur du urbain. Et là, en plus, on a vu avec son dernier album où elle a plusieurs facettes, où elle montre un petit peu toute sa palette musicale. On a Jennie qui va plus faire de l'américain, ainsi que Rosé avec Bruno Mars. Mm-hmm. On a tous entendu à Pateux. Mm-hmm. Et c'est vrai qu'en effet, bah, c'est pas les standards dont on a l'habitude, c'est pas des sonorités dont on a l'habitude quand on a Blackpink ensemble. Et donc, c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a un petit peu plus de sévérité. C'est vrai que les fans de K-pop, malheureusement, sont aussi connus pour leur sévérité envers leurs artistes préférés. Et parce que moi je suis fan de toi, donc tu dois me rendre l'amour que je te donne, tu dois répondre à mes exigences audio-musicales, quoi.
D'accord. Savannah, on ne peut pas terminer cette émission sans que je vous demande individuellement, mais quel est votre titre préféré de Stray Kids ?
Mon titre préféré de Stray Kids, c'est Sorry I Love You de l'album No Easy. C'est une chanson plus balade R&B, je dirais. Et elle a été produite par Changbin et j'adore vraiment cette chanson.
Aureline ?
Moi, c'est Chronosaurus. Elle date de leur premier album, je crois. Ils étaient encore neufs à l'époque. Et j'aime bien l'aspect mélancolique de la chanson et en même temps dynamique. Enfin voilà, il y a plein de sonorités et j'aime beaucoup l'ambiance de la chanson.
Laetitia ?
Alors moi, c'est une chanson un peu plus récente, Maniac, parce que je trouve la production musicale vraiment très très intéressante, et la façon d'avoir mis la voix de Félix en avant sur le refrain, bah c'est percutant quoi.
Mais comme quoi, hein, quand on mange des brownies,
voilà.
Tout de suite
on a une voix assez incroyable.
Mais oui. Merci beaucoup Laetitia, merci Savannah Priong, merci Laureline Nel. C'est la fin de cette émission, une émission qui a été réalisée par Charles De Silia et préparée par Lisiane Larbani. Et à la technique aujourd'hui, on la remercie chaleureusement, Adèle Caglar. Vous pouvez nous laisser un message au 01 56 40 30 20, 01 56 40 30 20, pour nous expliquer bah voilà, le rapport que vous entretenez à la K-pop, si jamais vous avez des enfants aussi qui en écoutent, voilà, ou parler directement avec moi sur Instagram. Et on se retrouve demain pour un nouveau blockbuster.
You're so cute.
Cute, Sungmin.
Oh my God. I want to be a baby.